Je dirais on a à peu près 1600 apophthegmes ou histoires, de à peu près 250 pères, quelques mères quand même, et la plupart de l'Égypte, des pères de l'Égypte. Et cette spiritualité, comme vous allez voir, est la base de la spiritualité monastique. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est donner un aperçu du contexte historique, un peu après les grandes lignes de leur vie quotidienne. Troisièmement, les grandes lignes de leur spiritualité. Et puis, j'aimerais terminer en parlant de qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'eux sur l'accompagnement spirituel. Et après, comment leur spiritualité peut nous interpeller aujourd'hui? J'aimerais terminer assez pratiquement. Et puis on va parler de quelques livres au niveau bibliographie, etc. Donc d'abord le contexte historique. Donc cette vie au désert n'a pas été inventée, il faut le dire, au IVe siècle. Il existe, comme vous savez, les antécédents bibliques pour des gens qui sont allés vivre en désert, au désert. Il y a Moïse, il y a Élie, Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Dans le judaïsme palestinien, il y avait Qumran, la communauté de Qumran. Dans le judaïsme hellénistique, il y avait la communauté des thérapeutes qui était près d'Alexandrie aussi. Donc ça existait déjà dans le judaïsme, d'une certaine manière. Mais au niveau chrétien, c'est souvent on considère c'est Saint Antoine qui était un peu le premier, qui est le père des pères des déserts, du désert. Il a vécu, il est né en 251 et mort en 356. Donc il a vécu quand même très longtemps, hein. 251 à 356. Non, attendez, ça ne peut pas être vrai. 251. Oui, c'est 305. Parce qu'il y a eu une très très longue vie.
Oui, ça concerne.
Oui, oui, ça concerne. Mais. Souvent, il y appelait père des pères du désert parce que père dans le sens que c'était un des premiers, au moins qu'on a le nom, qui s'est retiré dans le désert, mais père aussi parce qu'il a une influence considérable sur les autres. Et il raconte, bon, il y a des livres sur sa vie, hein, de Saint-Antoine, je ne vais pas apporter là, mais il y a des livres sur la vie de Saint-Antoine où, après la mort de ses parents, il a entendu, il était allé à l'église et il entend les paroles du Christ adressées au jeune homme riche. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Et il le fait. Il a la charge de sa sœur, il le met, il la place avec d'autres vierges dans un, c'est pas un monastère mais dans un endroit. Et il part, il vit d'abord un peu en dehors de la ville pendant plusieurs années et puis il s'éloigne de plus en plus dans le désert. Il se retire. Le désert, donc le lieu du désert, dans la Bible a toujours ce double héritage. Il y a toujours double. Deux théologies du désert. Il y a le désert dans la Bible, c'est un lieu de rencontre et de communion avec Dieu, de fiançailles. Par exemple, en Osée chapitre 2, hein, je l'attirerai dans le désert. Et c'est dans le désert où Dieu, en Osée 2, commence à restaurer. C'est dans le désert. C'est dans le désert que Dieu a donné la révélation de la loi, qu'il est dans le Sinaï. C'est le lieu tranquille en dehors des activités de la ville. Donc, c'est un lieu de rencontre. Mais c'est aussi, deuxième tradition, c'est un lieu stérile, un lieu habité par des bêtes sauvages et des démons. C'est un lieu de tentation. Les tentations de Jésus ont eu lieu dans le désert. L'esprit l'amène dans le désert pour être tenté. En Matthieu 12, 43, les démons habitent les lieux arides, le désert. Donc, si on va dans le désert pour rencontrer Dieu, bon, on rencontre aussi le diable. Les deux sont dans le désert. Il y a cette double, toujours ce double aspect. Donc, au niveau contexte historique, pourquoi, on peut poser la question, pourquoi ce mouvement en masse à cette époque du 4e et 5e siècle? Et c'est pas simplement en Égypte, c'est le désert aussi en Asie mineure, en Palestine, en Syrie, c'est vraiment un mouvement, un phénomène un peu partout. Et juste pour vous donner quelques chiffres qu'on pense, par exemple à Nitri en Égypte, on a au moins à une certaine époque du 5e, on pensait à peu près 5000 personnes. À Sété, il y avait 2000 personnes. Le désert, tout d'un coup, était peuplé. C'était un mouvement en masse. Mais pourquoi? Pourquoi à cette époque? C'est sûr qu'à cette époque, les persécutions se faisaient plus rares pour l'Église. Il y avait très peu de martyrs. La société accueillait à bras ouverts les chrétiens. L'empereur est devenu chrétien. Le christianisme était installé dans la sécurité. Pour le contexte, hein. Et c'est justement l'heure où il n'y a plus de persécution, où il y a une paix dans l'Église et l'Église est bien installée dans le monde, qu'il y a ce mouvement en masse d'aller dans le désert. Pourquoi est-ce que peut-être renoncer à tout pour aller dans le désert, est-ce que c'était une espèce de martyr non sanglant? Est-ce que c'était une manière, à l'époque, de... C'est un peu le summum de renoncement. Ça remplaçait. Est-ce que c'est possible que ça remplaçait un peu le martyr? C'était le sacrifice le plus haut qu'on pouvait faire pour Dieu. Quitter les villes et aller dans le désert. Peut-être. Mais peut-être aussi, c'était une manière aussi de fuir le monde qui était devenu officiellement chrétien. Officiellement. Chrétien. Mais avec tout un coup, tout l'empire qui devient chrétien, le monde est rentré dans l'Église, dans un sens. C'était une mondanisation de l'Église. Et est-ce que c'était peut-être aussi une réaction d'une Église installée dans le pouvoir, où la croix est devenue le signe de pouvoir temporaire? Est-ce que c'était pas peut-être pour fuir, justement, cette Église à la dérive? Et c'était aussi une voie prophétique pour dire que le chrétien n'est pas de ce monde, mais il appartient à une autre cité. Donc, il y a peut-être plusieurs raisons de ce mouvement. Mais même si, je dirais, les pères du désert ont fui le monde, ils ont quitté le monde, c'était pas avec un sentiment de supériorité ou d'orgueil ou d'individualisme. Et on va le voir un peu plus tard quand on voit leur spiritualité. Juste quelques mots sur les grandes lignes de leur vie quotidienne, les conditions de leur vie. Au niveau... habitat. J'ai mis d'autres mots. Il y avait trois types de paix. Il y avait des anachorètes, hein, qui viennent du mot grec anachorio, qui veut dire se retirer. Donc il y avait des anachorètes qui, eux, habitaient seuls dans une cave, quelque part. C'est vraiment l'ermite. hein, qui était loin de tout, qui était complètement seul. Mais c'était quand même assez rare. Je dirais la plupart étaient ce qu'on appelle des semi-anachorètes. C'est une deuxième catégorie, des semi-anachorètes. Des semi, c'était des gens qui habitaient seuls, dans le sens, il y avait une hutte, hein, qui protégeait du soleil et la pluie. Donc, ils habitaient seuls, mais les huttes, les uns des autres, étaient quand même ensemble. Donc, il y a un groupement quand même. Ils habitaient seuls, mais quand même, le groupe est là. Ils habitaient donc dans les huttes à côté les uns des autres, ou au moins peu éloignés. Mais ce n'est pas encore le monastère, parce qu'il n'y a pas de règles ensemble, il n'y a pas une personne, là, une prière, ou un prieur, etc. Ce n'est pas du tout le monastère encore, mais c'est des semi-anachorètes. Et puis, il y a les cénobites, et là, c'est un monastère qui est entouré par un mur, où il y a une vie communautaire, il y a une règle, il y a une communauté réunie autour d'une personne, il y a une mise en commun en tout, et là, c'est Pacom qui fonde en 320 à Tabenez, en Égypte, le cénobitisme qui... Et ce que moi j'ai lu, au moins, il y avait à peu près 1600 cellules. C'est énorme. Donc voilà, donc quand on parle des pères de désert, parfois on parle des gens qui étaient anachorètes, parfois semi-anachorètes, parfois cénobites. Hein. Donc, il ne faut pas mettre tous les pères du désert dans le même sac et dans les mêmes conditions. C'est un mouvement assez divers. Quelles étaient leurs activités pendant la journée? Surtout trois activités. Prière, méditation et travail. Je dirais leur activité essentielle, le cœur de leur vie, c'est la prière. Qui est l'autre le moins, sinon quelqu'un qui cherche à vivre seul avec Dieu et à lui parler nuit et jour. C'est cet aspect d'aller dans le désert pour retrouver Dieu, cette intimité avec Dieu, sa prière. Donc, ils prient seuls toute la journée, pendant la journée. Ils prient pendant qu'ils travaillent. Ils avaient des travaux manuels, donc ils n'avaient pas besoin de réfléchir trop. C'était de faire des nattes ou faire des corbeilles, qu'après ils vendaient en ville. Donc c'est un travail manuel où ils pouvaient constamment prier pendant qu'ils travaillaient.
Excusez-moi, là vous parlez des cénobites.
Non, les semi-anachorètes.
Les semi-anachorètes.
Oui, bon, les cénobites aussi. Hein, oui. Il y avait toujours des travails, leur temps est rythmé aussi par le travail. Mais il y a surtout ce dialogue incessant avec Dieu, cette prière. Il prie les psaumes, il y a un ministère d'intercession, la prière, c'est leur vie. Mais même, je dirais, des gens qui priaient tous les jours pendant des années et des années, la prière restait toujours pour eux une lutte. Et c'est là la première, j'aimerais que si Jean-Jacques peut lire la première citation de Agathon.
Les frères l'interrogèrent encore. Quelle est parmi les bonnes œuvres la vertu qui comporte le plus d'efforts?
Vous l'avez sur vos frères.
Il leur dit, pardonnez-moi, je crois qu'il n'y a pas d'effort comparable à celui de prier Dieu. Chaque fois en effet que l'homme désire prier, les ennemis veulent l'en arracher. Car ils savent qu'ils n'entraveront sa marche qu'en le détournant de la prière. Pour toute œuvre bonne qu'un homme entreprend, en y persévérant, il acquiert de la facilité. Mais pour la prière jusqu'au dernier soupir, il a besoin de lutter.
Je trouve réconfortant, ça. Ça me fait croire. Donc, il y a cet aspect de prière, il y a aussi la méditation, les écritures. Il ne possédait pas, très rarement, une Bible entière, même pas souvent un Nouveau Testament entier. Mais ils avaient mémorisé les textes, surtout les psaumes, et il y avait une méditation des écritures. Ils écoutaient aussi, dans les temps ensemble, le samedi soir et les dimanches, pour les semer un anachorète ou les samedis. Cet aspect de l'écriture est très important. Et puis le travail manuel qui est important. Ils n'étaient pas des mendiants, des pères du désert. Ils travaillaient pour se nourrir, pour subvenir à leurs besoins et aussi pour pouvoir donner l'hospitalité. Parce qu'il y avait des visiteurs, il y a des gens qui venaient les voir constamment. C'est pour ça, Antoine, il a déménagé de plus en plus dans le désert, parce qu'il y avait tant de monde qui venait le voir. Donc il n'arrêtait pas de se retirer de plus en plus. Donc ils offrent l'hospitalité pour les visiteurs, mais aussi la charité aux pauvres. Donc ils travaillaient seuls dans leur salut. Comme je dis, des travaux de vannerie ou de fabriquer des corbeilles. Et ça, c'est une autre que j'aimerais lire, le numéro 2. C'est un messalien. Messalien, c'était un secte gnostique qui, pour eux, ils étaient des mendiants. Donc, pour eux, ils ne travaillaient pas. Ils demandaient toujours la nourriture, etc. Ils mendiaient. Et la prière était très importante pour eux. La croix n'avait pas de sens pour eux. La croix, pour les messaliens, n'avait pas de au niveau du salut, n'avait pas d'impact ni les sacrements de l'Église, mais la prière l'avait. Donc, c'est des gens qui prient. Donc, il y a un messalien qui vient voir un des pères ou des pères du désert. Donc, je laisse Jean-Jacques le lire.
Un messalien était allé faire visite à Abba Sylvain. Or, il le trouva au travail manuel avec ses disciples. Il rappela au vieillard deux paroles de l'Évangile. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Et Marie a choisi la meilleure part. Le vieillard ne répondit rien. Mais il dit simplement à son disciple Zacharie, donne un livre à ce frère et conduis-le dans une cellule vide. Lorsque vint l'heure de nonne, le frère regardait sur la route si quelqu'un venait l'inviter pour le repas. Mais personne ne vint. Alors, comme personne ne venait et que la faim devenait tiraillante, le frère alla trouver Sylvain et lui dit, « Les frères n'ont-ils pas mangé aujourd'hui ?» Sylvain lui répondit, « Si, mais tu es un homme spirituel, et dès lors tu n'as pas besoin de notre nourriture. » Nous, au contraire, nous sommes des êtres corporels, aussi nous voulons manger, et c'est pourquoi nous travaillons. Mais toi, tu as choisi la meilleure part, et tu lis et pries le jour entier. Pourquoi aurais-tu besoin d'une nourriture corporelle ? Quand le frère eut entendu cela de Sylvain, il tomba à ses pieds et lui dit, « Pardonne-moi. » Le vieillard lui dit, « Marie a besoin de Marthe. Car c'est grâce à Marthe que Marie a été louée. »
Ça, vous avez un petit aperçu de ces histoires, parfois, c'est marrant. J'aimerais peut-être maintenant décrire un peu les grandes lignes de leur spiritualité. On peut toujours revenir par des questions, savoir d'autres choses, mais au niveau des grandes lignes de leur spiritualité, les pères du désert se sont retirés dans la solitude désert afin vraiment d'être tout entier à Dieu. C'est pas une solitude qui cherchait pour elle-même, c'est pas pour fuir des gens. D'ailleurs, il y a une parole de Lucius, un jeune disait à Père Lucius, je veux fuir les hommes. Et Lucius répond, oui, mais après avoir prouvé que tu es capable de vivre aimablement avec eux. Je trouve des bons sens. Donc, il se sépare du monde, mais pour tourner plus profondément envers Dieu. Pour se donner entièrement à Dieu, pour cette intimité, cette communion plus profonde, cette intimité, je dirais, avec Dieu sans distraction. Et la solitude favorisait cette intimité, cette communion. Donc, il s'éloignait de la société, il se libérait de toute attache pour se consacrer totalement à Dieu. C'est un peu cet homme qui, dans les paraboles de Matthieu 13, vend tout ce qu'il a pour acheter le Père de grand prix. Donc, il y avait pour eux un renoncement, je dirais extérieur, renoncement des choses matérielles. Ils vivaient très simplement, renoncement de s'éloigner au niveau de la société. Donc, il y a un renoncement extérieur. Mais il y avait aussi un renoncement intérieur. Parce qu'une fois qu'il se trouve, je dirais, le silence et la solitude extérieure, les rendait beaucoup plus attentifs au monde intérieur, à ce qui se passait en eux. Et on trouve, dans les Pères du désert, moi je trouve au moins une très grande lucidité sur eux-mêmes, sur ce qui se passe en eux, de leur faiblesse, de leur pauvreté spirituelle. Et souvent, notre monde intérieur, je dirais, est un peu étouffé par toutes les activités extérieures, par les occupations du monde. Et souvent, l'être humain ne veut pas ou ne peut pas faire face à certaines parties, je dirais, ou faire face au désordre intérieur, parce qu'il y a tellement de choses extérieures. Mais quand tout d'un coup, on va dans le désert, et c'est la solitude, le silence. Tout d'un coup, c'est l'intérieur qui se réveille. Et on est face à tout ce désordre intérieur, à toutes ces parties blessées en nous, à toutes ces illusions sur nous-mêmes, parfois même le vide en nous-mêmes. Et là, j'aimerais Jean-Jacques lire cette phrase très très connue d'Antoine. Numéro 3.
Il a dit encore, celui qui se tient au désert dans la retraite est libéré de 3 combats, celui de l'ouïe, du bavardage et de la vue. Il n'en a plus qu'un, celui du cœur.
Le fait de s'éloigner du monde élimine certains combats. Mais la solitude suscite d'autres, rend plus attentif à d'autres combats, surtout au niveau de la pensée. Parce que Antoine, Saint Antoine, il a renoncé au confort, il a renoncé à ses biens matériels, il est allé dans le désert. Mais tout d'un coup, une fois qu'il est tout seul au désert, il se rend compte qu'il pense au confort. Il pense à ses biens matériels. Il pense à toutes ces choses. Il pense à sa sœur, etc. Donc, les pères de désert, c'est vrai, ils sont plus tentés, par exemple pour les femmes, ou par la possession de l'argent, mais tout d'un coup, tout se passe au niveau des pensées. C'est à l'intérieur. Donc, il n'y a pas simplement un renoncement aux choses extérieures, mais il y a tout un travail au niveau de la pensée. Il y a un travail intérieur sur les passions, les pensées, de se rendre libre aussi, une liberté intérieure, des pensées qui nous emprisonnent, qui nous attachent. Et c'est Eva de Le Ponty qui établit 8 pensées qui s'opposent à la pureté du cœur. C'est après Jean Cassien, on peut le lire dans ses institutions. C'est lui surtout qui les a répondu, mais 8 pensées. Je vais simplement les listes de données. Les 2 premiers concernent le corps, la gourmandise, On pense à la nourriture, concernant. Aussi la luxure, le sexe. Troisième, l'avarice. On pense à des choses matérielles, de posséder, d'avoir. Quatrième, la colère, qui pour eux, on perd la capacité de discerner. Quand on a une colère, on perd la capacité de discernement. Cinquième, la tristesse. Sixième, l'acédie, qui est un peu difficile à... L'acédie, A-C-E-D-I-E. C'est un peu la fatigue spirituelle, la lassitude, l'abattement, mais spirituel. Où on ne fait pas un effort spirituel. Et les deux derniers, c'est au niveau être, c'est la vaine gloire. Et le huitième, l'orgueil. Bon, par la suite, le septième et le huitième étaient mis ensemble. Vaine gloire et orgueil étaient mis ensemble. Et c'est venu, dans la tradition, les sept péchés. Mais, et c'est dommage dans un sens, c'est venu beaucoup plus des choses extérieures. Péché extérieur que pensée. Mais au début, c'était vraiment des pensées, des états intérieurs. Et ils ont beaucoup... et c'est très intéressant de lire Jean Cassien dans les institutions, parce qu'il apprend ses pensées, ses états, et comment est-ce qu'on les combat. Parfois, il faut rediriger la pensée, parfois, il faut renoncer, et à chacun, il y a sa manière de lutter contre ses pensées. Et ça, à mon avis, on peut apprendre beaucoup de choses dans les Pères du désert au niveau pensée. Dans la bibliographie, j'ai mis un livre en anglais qui est quelqu'un qui prend un peu la... ça s'appelle Thoughts Matter. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est de réactualiser un peu ses écrits pour aujourd'hui, combien on lutte et comment lutter avec des pensées au niveau intérieur, selon les Pères du désert. Donc, Evagre qui dit que toutes ces pensées troublent l'âme ou ne la troublent pas, cela ne dépend pas de nous. Donc, il y a une pensée qui arrive. On ne peut pas empêcher d'arriver. C'est là. Mais qu'elle s'attarde ou qu'elle ne s'attarde pas, qu'elle déclenche les passions ou ne les déclenche pas, voilà ce qui dépend de nous. On ne peut pas les empêcher de venir. Mais une fois qu'ils sont là, alors après, c'est notre problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées ? Et souvent, ces pensées, c'est surtout Saint-Antoine qui dit, souvent ces pensées sont d'abord un peu anodins. Antoine, il va penser à son argent et à sa sœur. Et puis, il va dire qu'une pensée va amener une autre, et comme c'est une toile d'araignée, et tout d'un coup, il est pris dans un enchaînement de pensées, mais ça commence avec des choses très légitimes. Mais après, plus il pense, plus il y a une anxiété, plus il perd contact un peu avec Dieu. Et je dirais, aujourd'hui, on dirait, en anglais au moins, on dirait « overthinking ». Il y a une surpensée qui vient. Donc, il y a beaucoup de manières de lutter contre les pensées, surtout d'être accompagné par quelqu'un, parce que c'est difficile de lutter seul. Donc il parle beaucoup d'aller voir quelqu'un, il parle de discernement, de voir d'où viennent ses pensées, il parle de confiance en Dieu. Il parle aussi d'humilité, et j'aimerais qu'on lise le quatrième de Saint-Antoine.
L'abbé Antoine a dit, J'ai vu tous les filets de l'ennemi tendus sur la terre. Et je disais en gémissant, qui donc passera à travers? Et j'entendis une voix me dire, l'humilité.
Et je trouve que l'importance, l'humilité est très importante pour les pères de désert. C'est vraiment, je dirais, de ce silence extérieur et intérieur vient une certaine, vient une humilité. Ils sont conscients de leurs péchés, ils sont conscients de leurs faiblesses. Beaucoup, ils parlent de pleurer leurs péchés. C'est vraiment l'humilité là. J'aimerais peut-être cette histoire de Colobos, de Jean Colobos, le cinquième.
Un jour, qu'il était assis devant l'église, les frères faisaient cercle autour de lui et l'interrogeaient sur leurs pensées. Un des vieillards, en le voyant, fut tenté de jalousie et lui dit « Ta cruche, Jean, est remplie de poison. » L'abbé Jean lui dit « Il en est ainsi, abbé. Et tu dis cela alors que tu vois seulement l'extérieur. Mais si tu voyais l'intérieur, que dirais-tu ?»«
Ta cruche, Jean, est remplie de poison. » Ça doit être l'extrême insulte à cette époque-là. Mais on voit cette humilité qui est là. Et quand on lit les Pères du désert, parfois on voit qu'ils ont eu des extases, ils ont eu des guérisons, des miracles qui ont été faits, mais toujours les Pères du désert se méfiaient des extases, des guérisons, de chasser des démons. Un exemple. Un jour, le démon, sur l'aspect d'un ange lumineux, apparaît à un père. Et ce démon dit, « Je suis l'ange Gabriel et je t'ai envoyé vers toi. » À quoi le père réplique, « Voici, ce n'était pas vers un autre que tu étais envoyé, car moi, je suis pas digne qu'un ange me soit envoyé. » Et alors, le démon est parti parce que ça vous était déjoué. Donc ils avaient, c'est vrai, des choses assez vives, des choses extraordinaires, mais il y a toujours cette méfiance qu'ils ne tombaient pas dans l'orgueil. Ou que ce n'était pas peut-être parfois une illusion ou un démon, hein, mais souvent c'est cet aspect d'humilité. Hein. L'importance de l'humilité était centrale. Et j'aimerais regarder le sixième, donc le A et le B.
Ah, un autre frère venu au désert avec son père selon la chair et qui se croyait mauvais moine parce que son père chasse les démons et que lui-même n'a pas ce pouvoir, un grand ancien répond, chasser les démons et guérir les malades, ce n'est pas un signe de progrès. Ce n'est pas en effet l'homme qui réalise cela, mais la puissance de Dieu et la foi de celui qui se présente. Beaucoup d'ailleurs s'y sont trompés, sont tombés d'orgueil à cause de ces dons et ont péri. Mais je te le dis, mon petit enfant, si un homme parvient à l'humilité et qu'il la possède à un haut degré, en même temps que la douceur, c'est là le plus haut des progrès et qui épargne de toute chute. Ainsi, un frère demanda à un ancien, « Comment se fait-il, père, que certains jouissent de visions et d'apparitions d'anges ?» L'ancien lui dit, « Plus heureux sont, mon fils, ceux qui voient sans cesse leurs propres péchés. »
C'est cet aspect d'humilité. Ce qui est intéressant aussi, qui peut sembler peut-être un peu contradictoire dans leur spiritualité, donc de cette solitude extérieure et ce travail de silence aussi intérieur, hein, silence extérieur, silence intérieur, vient l'humilité, mais vient aussi la charité envers son prochain. Très bizarrement, mais ça peut paraître étrange, mais il y a la solitude, mais en même temps, ils ont un très fort sens de communion de personnes. C'est Évagre qui dit « Le moine est celui qui, séparé de tout, est uni à tous. » Donc il y avait une insistance au niveau de la compassion envers les autres, sur la charité, sur un souci de rendre service à l'autre, de ne pas peiner l'autre, de renoncer ses propres préférences en faveur de l'autre, de ne pas voir son moi le centre de l'univers. Et il faut rappeler, comme j'ai dit, que la plupart des pères n'étaient pas du tout des anachorètes dans une cave toute seule, hein. C'était pas des ermites. Donc ils avaient des visites, ils se voyaient, ils vivaient proches, et parfois proches des villages, parce qu'ils vendaient le fruit de leur travail, hein, au niveau, ils vendaient dans les villes. Donc ils ont fui le monde, mais ils n'ont pas fui les frères. Ces deux commandements, aime Dieu et aime ton frère, aime ton prochain, c'était très important pour eux. J'aimerais le septième là, de Poemen.
L'abbé Poemen a dit, il y a trois choses capitales qui sont utiles, craindre le Seigneur, prier et faire du bien au prochain.
C'est intéressant les trois. Ensemble, je trouve. Et souvent, on a des petites histoires où on trouve que l'aspect de la charité, l'hospitalité, prennent même le dessus sur le jeûne ou la prière. Et ça, j'aimerais lire pour le huitième.
Un jour, à Cété, fut donné ce commandement, jeûner toute cette semaine. Or, il se trouva que des frères vinrent d'Égypte chez Abba Moïse, et il fit pour eux un peu de cuisine. Voyant la fumée, ses voisins dirent au clerc, « Voici que Moïse a violé le commandement en faisant cuire quelque chose chez lui. » Ceux-ci dirent, « Quand il viendra, nous-mêmes nous lui parlerons. » Le samedi venu, les clercs, sachant la pratique excellente d'Abba Moïse, lui dirent devant tout le monde, « Oh, Abba Moïse, tu as laissé tomber le commandement des hommes et gardé celui de Dieu. »
Ça montre qu'il y a quand même une hiérarchie, hein. Aimer ton prochain, plus important que ce commandement du jeûne qui était donné. Je trouve que il y a peut-être deux raisons pourquoi dans le silence et la solitude, où le silence et la solitude engendrent la charité envers les autres. Je trouve que déjà dans la solitude, il y a une certaine purification des pensées, un travail sur les pensées, l'intérieur, les pensées au niveau de la jalousie, au niveau de la convoitise, hein, de traiter les autres comme des moyens. Donc déjà, à cause de cette purification à l'intérieur, mais aussi dans le silence et la solitude, je pense que nous sommes plus conscients de nos propres vulnérabilités, plus conscients déjà de l'obscurité en nous, mais très conscients de cette obscurité en nous, quand tout le bruit autour de nous s'arrête et on est face à nous-mêmes, à nos manquements. Et quand on est face à nos propres manquements, on juge moins vite les manquements de l'autre. Et les pères de désert, eux, ils vont le dire, qu'ils sont plus conscients du mort chez eux. Et ça, j'aimerais le neuvième, parce que c'est
si bon. Nous nous appliquons à voir nos péchés, nous ne verrons pas les péchés du prochain. C'est en effet une folie, quand on a un mort à soi, de le laisser là pour s'en aller pleurer celui du voisin. Mourir vis-à-vis de ton prochain, c'est porter tes péchés et ne pas te soucier à propos de n'importe quel homme, s'il est bon ou mauvais.
Quand on a un mort chez soi, pourquoi aller pleurer la mort chez l'autre? Donc voilà un peu, assez vite, hein, les grandes lignes de cette spiritualité. J'aimerais peut-être voir un peu qu'est-ce que les pères du désert peuvent nous apprendre sur l'accompagnement. avant de voir comment leur spiritualité peut nous interpeller au niveau plus large de notre spiritualité. Mais comment... je trouve d'abord c'est le fait d'être accompagné. Parce que c'est vrai, il y avait une silence et solitude, mais en même temps l'importance de parler avec quelqu'un, d'être suivi. Un disciple, bon, pour les semi-anachorètes, hein, pas pour les cénobites, mais pour les semi-anachorètes, il n'y avait pas de... quelqu'un n'était pas chargé des novices. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour faire une formation pour les novices, comme les cénobites. Donc, pour les semi-anachorètes, quand quelqu'un déménageait, allait dans le, quand ils allaient dans le désert, ben, ils s'installaient à côté de quelqu'un qui était plus loin dans la foi que lui, avec qui il pouvait discuter, avec qui il pouvait parler, dans les moments de tentation il pouvait aller prier. Donc il y avait toujours ce rapport d'être accompagné par quelqu'un d'autre. Et c'est très très fort. Les apophthegmes viennent surtout de cela, ces phrases dites d'un accompagnateur à son accompagné. Donc déjà le fait que c'est important, c'est déjà on peut apprendre cela. Mais je trouve aussi, moi je vois dans les textes des pères de l'Église, pères du désert, un profond respect pour la conscience de l'autre. Un profond respect du travail de Dieu dans la vie de l'autre. Ça m'a toujours frappé chez eux. Ils ont un souci de respecter la liberté spirituelle de leurs disciples, de leurs accompagnés. Ils ne voulaient pas les indoctriner, les inculquer des théories, des idées. On sent fortement, ils visaient beaucoup plus de les libérer de tout ce qui empêchait, comme Louis parlait hier, de libérer des freins. Justement, les libérer pour les rendre, eux, capables d'écouter Dieu et de discerner la voix de Dieu. Il voulait les aider à percevoir ce que Dieu attendait d'eux et de répondre fidèlement à Dieu. Donc c'était beaucoup plus d'amener les disciples au point où le Saint-Esprit puisse devenir, je dirais, le principe de tout. Et c'est là où il y a cette phrase, quand un disciple est venu chez Abbé Moïse, mais j'aime beaucoup Moïse, et c'était là-bas Moïse était un grand, c'est un ancien esclave, un noir, et lui dit, il est venu vers Abbé Moïse, et le vieillard lui dit, va, reste assis dans ta cellule, et ta cellule t'enseignera toutes choses. Il vient chercher une parole de lui, et lui, il amène vers Dieu. Hein, va rester dans ta cellule t'enseignera toutes choses. Donc il y a très fortement cet aspect de ne pas dominer, de ne pas inculquer, c'est beaucoup plus d'aider à les libérer pour mieux être attentifs eux-mêmes à Dieu. Une deuxième chose qui me touche beaucoup, c'est le fait d'être un modèle. En général, il y a un refus de directivité chez eux. C'est surtout le modèle, c'est d'être un modèle dans l'accompagnement. Et j'aimerais qu'on puisse lire le 10e et le 11e, parce que ça revient très très fort.
Un frère demanda à l'abbé Poimen, « Des frères habitent chez moi. Veux-tu que je leur donne des directives ?» Le vieillard répondit, « Non pas, mais agis d'abord. Et s'ils veulent vivre, à eux de voir. » Le frère lui dit, « Mais eux-mêmes, père, veulent que je leur commande. » Le vieillard lui dit, « Pas du tout. Sois pour eux un modèle et non un législateur. » Et l'abbé Poimen dit encore que quelqu'un demanda un jour à l'abbé Paisios, « Que ferais-je à mon âme ?» car elle est insensible et ne craint pas Dieu. Il lui dit, va, attache-toi à un homme qui craint Dieu. Et dans cette fréquentation, il t'apprendra à craindre Dieu toi aussi.
Cet esprit de modèle. Et je dirais, grâce à leur profondeur de spiritualité qu'ils ont acquise dans le désert, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour les conseils, pour aller plus loin. Mais c'est surtout cet aspect de modèle qui était fort. Un troisième point, je vais arrêter là parce que après, je peux continuer, mais peut-être un troisième point aussi. Pour l'accompagnement, il nous aide aussi à voir la nature du cheminement spirituel. C'est Antoine qui disait que le progrès dans la vie spirituelle n'est jamais linéaire. C'est toujours cyclique, spirale. On commence à vivre certaines vertus, on avance et puis tout est remis en question. On revient et on reprend des choses de la base, on les élargit, et puis on repart, on reconstruit, après une autre crise. La vie spirituelle, c'est pas que comme ça. Il parle de fait d'être spirale. Il y a des hauts et des bas, des crises, des mises en question, des luttes, etc. Mais toujours cette... Je trouve chez eux une certaine, pour la plupart, hein, donc il y a quand même des gens bizarres, hein, parfois, si vous allez les lire, mais la plupart, il y a quand même une certaine finesse de pédagogie. Si on peut juste lire le dernier.
Un frère qui avait été offensé par un autre frère vint trouver l'abbé Sissoès et lui dit « J'ai été offensé par le frère tel et tel et je veux me venger ». Le vieillard le supplia en disant « Non, mon enfant, laisse plutôt à Dieu l'affaire de cette vengeance. » Il lui dit « Je n'aurai pas de repos tant que je ne me serai pas vengé. » Le vieillard dit « Prions, frère. » Et le vieillard se leva et dit « Ô Dieu, nous n'avons plus besoin de toi pour t'occuper de nous, car nous exerçons nous-mêmes notre vengeance. » Ce qu'entendant, le frère tomba aux pieds du vieillard en disant « Je ne me disputerai plus avec le frère, pardonne-moi, père. »
Comment est-ce que leur spiritualité peut nous interpeller aujourd'hui? Je vais terminer avec cela. J'aimerais peut-être trois choses que je vois. Et c'est vrai, c'est un peu ma propre sauce béchamel, là. Mais moi, je trouve que les pères du désert nous rappellent l'importance ou le besoin de retrouver le silence et la solitude. Même si nous n'allons pas aller en plein désert ou vivre en plein désert, mais d'avoir des moments dans nos vies, des moments de silence, de solitude, dans notre vie active, et dans la solitude et le silence, de développer notre capacité d'être attentif à la présence de Dieu, de nous rendre présents à Dieu d'une manière plus consciente. Ce que je trouve, et peut-être c'est juste la région parisienne, hein, là où j'habite, peut-être c'est pas le cas en Suisse. Mais je trouve que dans la région parisienne, nous sommes entourés de bruit, d'appartements mal isolés, de voitures, d'avions, de constructions, de téléphones portables, de MP3. On est bombardé de bruit. Et en plus, on est saturé d'informations. Avec Internet, on a une énorme quantité. Et je m'en compte que l'Internet a fait que je lis différemment qu'avant. Je lis maintenant en diagonale. Je parcours les textes. Souvent pour chercher l'information, quelque chose qui va m'aider à vivre. Mais je ne prends pas le temps de... Parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de choses à lire. Donc on est entouré de beaucoup d'informations, de beaucoup de bruit. Nos agendas sont hyper archi remplis avec des réunions, des choses à faire qui ne s'arrêtent jamais, des visites, des gens, des réunions, etc. Et je dirais, on est tellement pris par ce que nous avons à faire que nous avons très peu de recul sur ce que nous faisons. Et on porte très peu d'attention à notre vie spirituelle avec Dieu. Et je trouve que le bruit, un trop-plein d'informations, atténue notre soif profondeur avec Dieu. Et ce trop-plein d'informations peut même émousser notre capacité d'apercevoir l'essentiel dans la vie. Parce qu'il y a tellement d'informations, on est tellement bombardé de choses. Et que c'est les pertes des airs nous rappellent l'importance de prendre du moment à part, de solitude, de silence. Et dans ce cas-là, j'aimerais juste lire une partie de la règle des sœurs de Reuilly. Elles l'ont dit bien mieux que moi, donc j'aimerais juste lire une partie de leur règle, d'un texte qui va dans ce sens-là, qui souligne l'importance. Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à l'autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le maître de tout. Pars donc vers la source cachée de toute chose. Quitte tout et tu retrouveras tout. Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même. Respire, reprends haleine. Le Père des déserts, c'est une voix prophétique qui nous rappelle cette importance. Bon, c'est la première manière dont ils peuvent nous interpeller. Je trouve la deuxième, c'est que dans une société comme nous, assez individualiste, les pères de désert nous rappellent l'importance d'être accompagnés dans notre chemin spirituel. De ne pas se fier uniquement à notre propre jugement, à notre manière de voir, mais d'être accompagnés par quelqu'un en qui nous avons confiance. Parce que c'est une preuve d'humilité, c'est une preuve de prudence, une preuve de communauté. Donc c'est cet aspect d'accompagnement, ces relations avec l'autre. Et puis troisièmement, je dirais dans une société de consommation où un but majeur est être à la recherche du bien-être, hein, la consommation de matières premières, d'énergie tellement hors proportion par rapport aux pays plus pauvres que nous consommons en Europe ou aux États-Unis ou dans d'autres pays riches. Peut-être les pères du désert ont quand même quelque chose à nous apprendre sur le renoncement. Surtout dans une société de consommation. C'est quand même aussi une voie prophétique de nous rappeler le bonheur, le bien-être n'est pas que là, dans ces choses-là. Quels sont peut-être quelques dangers, puis j'arrête là pour... Quels sont peut-être quelques dangers de cette spiritualité des pères du désert? Peut-être ça serait pour nous de penser qu'il y a une incompatibilité entre notre vie active et une vie contemplative. Qu'il faut aller, si on veut vraiment être proche de Dieu, il faut aller au désert. Hein. Et si on n'y va pas, si on habite en plein Paris, c'est pas possible, quoi. Non, il faut pas, à mon avis, avoir ce genre d'opposition. Qu'il faut à tout prix une séparation, un éloignement du monde pour vivre une vie spirituelle. On peut vivre une vie spirituelle au milieu de nos familles, au milieu des villes. Hein. Moi, je dirais plutôt l'action, ce que nous faisons, ce que nous vivons, se nourrit dans les moments à part, dans les retraites. Et la retraite prend son sens dans l'action. Donc, c'est pas d'opposer les deux. C'est pas opposer Luc et Jean. C'est les mettre ensemble. Donc, il y a cet aspect de ne pas les opposer. Peut-être un autre danger, et ça j'entends parfois, surtout dans la faculté où je suis, c'est certains n'aiment pas les pères du désert parce que les pères du désert accordaient pour eux trop d'importance à un effort humain. L'ascèse, le renoncement, une certaine domination de leur corps, et le risque est de croire que tout est fait par nos efforts, de perdre l'aspect de la grâce. Je ne pense pas que la plupart des pères l'ont fait, peut-être certains, oui, mais on voit quand même l'importance de la grâce dans leurs écrits, hein, que ce n'est pas par des efforts, c'est par la grâce. Mais il y a quand même un renoncement qui est là, qui est important. Peut-être juste quelques mots au niveau bibliographie, et puis on arrête là. Donc il y a des apophègmes des pères, il y a plusieurs types, il y a les trois tomes de Jean-Claude Guy, qui sont chers, je veux dire. Il y a aussi celle-là. Oui, c'est là. Il y a une série aussi de Renault, comment ça s'appelle? Là, c'est par ordre, c'est une collection au niveau alphabétique, donc on peut prendre, c'est chaque terre. Là, c'est sur thème, donc on peut l'avoir par auteur ou par thème. Et je laisse ces livres-là pendant tout le week-end, vous pouvez le voir. Bon, il y a Jean Cassion des institutions. Là où il va parler des pensées et comment les combattre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un petit livre à l'écoute du Père du désert aujourd'hui, hein, de Lucien Grenoble, où il va donner, par exemple, une certaine parole, et puis il va l'expliquer. Donc ça aide à mieux rentrer dans l'explication. Donc il y a quand même l'explication qui est là. Il y a un petit livre de Thomas Merton sur la sagesse du désert où il va faire une introduction et puis il va après donner certaines des apophthegmes des pères que lui il a sélectionnés. Je ne l'ai pas mis sur le liste, mais ce livre de Nguyen que Eliane m'a passé, là, Le chemin du désert, hein, au niveau solitude, prière, mais c'est plus édité.
Écoute, je ne sais pas si en réalité, mais quand est-ce que c'était germiné,
D'accord. Donc, solitude, silence et prière. C'est aussi un petit livre. On va laisser là. Bon, est-ce que vous avez peut-être des questions de clarification et puis des choses à ajouter. Mais...